Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Il est 13h55, vous êtes sur RMC à 14h, départ du Grand Prix d'Autriche de moto. Vous allez suivre ça en direct et en intégralité. Dans un instant, on va retrouver Paul Lafitte, juste pour vous dire que Strasbourg mène à la mi-temps face à Reims. 1-0, but de Djikou. On suivra la deuxième période ensemble, troisième journée de Ligue 1 qui est à suivre tout ce dimanche, avec les matchs également à 15h, Angers-Brest, Montpellier-Auxerre, Toulouse-Lorient ou encore Clermont-Nice. On vous présentera toutes ces affiches. La Vuelta, bien évidemment, on suit la troisième étape également. Et puis les championnats d'Europe de Munich, c'est la dernière journée avec peut-être encore des chances de médailles françaises. On vous tient au courant, bien évidemment. Mais donc, la priorité, c'est la moto, puisqu'à 14h, je l'ai dit, départ de ce Grand Prix d'Autriche, on retrouve Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut François, salut Manu et bonjour à toutes et à tous.
D'abord, rappelle-nous la grille de départ avec donc le Français Fabio Quartararo, certes leader du championnat, mais qui partira en deuxième ligne.
Ouais, François, un petit peu déçu, le champion du monde en titre qui avait dominé avec Juan Zarco les essais libres 1 et 2 et qui ne s'est donc classé que 5e à seulement 2 dixièmes de la pole position réalisée par Enea Bastianini, ce jeune Italien autour de sa première pole position en carrière, qui a déjà gagné à 3 reprises cette saison en MotoGP et qui est aujourd'hui 4e du classement général. Donc c'est une surprise, mais une belle surprise pour l'Italien. La deuxième position à seulement un petit dixième pour Pecco Bagnaia. C'est François Emmanu, l'homme en forme de ce championnat qui reste sur 2 victoires de rang. C'était à Assen, mais également à Silverstone. Il sera donc en deuxième position. Et il précède d'un dixième son coéquipier Jack Miller. Donc une première ligne 100% Ducati. En deuxième ligne, Jorge Martin, lui aussi sur Ducati, le coéquipier de Juan Zarco. Et donc seulement cinquième, Fabio Quartararo, le premier pilote Yamaha devant Juan Zarco. Et puis un petit peu plus loin, Aleix Espargaró, le dauphin de Fabio Quartararo au classement du championnat du monde, qui n'a donc réalisé que le 9e temps de cette séance de qualification.
Alors tu as quelques minutes, Paul, avant le départ, pour nous expliquer ce qui a fait débat dans les paddocks, puisque les pilotes ont appris hier qu'ils allaient découvrir les courses sprint à partir de la saison prochaine.
Ouais, François, une véritable révolution. Alors la course sprint dès la saison prochaine, ce sera le samedi, l'équivalent de la moitié d'un Grand Prix, format, vous l'avez compris, un petit peu plus ramassé, où les 9 premiers pilotes marqueront des points, celui qui remportera la course en marquera 12. La séance de qualification de samedi déterminera la grille de départ des deux courses. La course sprint le samedi et le Grand Prix le dimanche. Et comme tu le précisais, François, beaucoup de pilotes, eh bien, ont grincé des dents, et notamment Fabio Quartararo. Sa voix compte évidemment dans le paddock. C'est lui le boss, le champion du monde. Une déclaration toute simple, un petit peu stupide de faire ça tous les week-ends. Stupide et dangereux et même bizarre, car les pilotes n'ont pas été consultés. En tout cas, la Dorma, l'organisateur de ce championnat du monde de MotoGP, a pris cette décision. On connaîtra évidemment, eh bien, toutes les précisions d'ici quelques semaines, mais les courses sprint seront au calendrier, François, c'est certain, à 100%, à partir donc de la saison 2023.
Ouais, c'est pour l'argent, on est d'accord.
C'est pour l'argent, pour le spectacle.
Pour le spectacle le samedi, ouais, pour qu'il y ait de la moto et une vraie course le samedi, quoi.
Mais voilà, Randy Depugnier, l'ancien pilote MotoGP français, consultant sur Canal+ chez nos confrères, déclarait qu'évidemment pour le spectacle d'avoir une course sprint le samedi, c'était bénéfique pour le MotoGP. Évidemment, il est de question d'argent, mais tout comme en Formule 1, même si il n'y a que 3 courses sprint en Formule 1 durant le ouais, championnat, eh bien le MotoGP passe la seconde, voire la troisième, avec donc des courses sprint qui seront au calendrier, et ce dès le premier Grand Prix de la saison prochaine.
Ouais, même si la petite différence, c'est, tu le disais, la course sprint en moto ne détermine pas la grille de départ.
Non. Voilà. La
alors
séance de qualification,
c'est le cas.
Voilà, la ouais, séance de qualification déterminera, eh bien, la position de départ de la course sprint, mais également de la course finale. Alors qu'en Formule 1, on le rappelle, si, eh bien, quelqu'un abandonne lors de la course sprint, eh bien, il reculera évidemment, eh bien, sur la grille de départ pour la course du dimanche. C'est la seule petite différence entre la Formule 1 aujourd'hui et le MotoGP.
Oui, donc bon, évidemment, on verra comment ça se passe l'année prochaine, mais ils n'ont pas eu le choix, les pilotes. C'est ça qui pose problème, évidemment, hein, Manu.
Oui, bah, ça pose énormément de problèmes. Je crois qu'ils ne sont pas assez écoutés. Y a toujours des gens qui veulent gagner plus et s'enrichir davantage, alors que c'est quand même les principaux acteurs, c'est quand même ceux qui conduisent la moto ou la voiture ou les footballeurs ou autres sports, et leur voix pratiquement ne compte pas.
Messieurs, je vais vous couper car le départ de la course dans quelques petites secondes avec la pole position, on le rappelle, pour Enea Bastianini, ce Grand Prix d'Autriche, 4,3 km à parcourir 28 fois et donc une première ligne 100% Ducati, les feux qui sont au rouge et qui vont s'éteindre dans quelques petites secondes, et le bon départ d'Enea Bastianini tout comme le bon départ de Pecco Bagnaia dans sa roue. Il y a Jack Miller et c'est l'Italien qui va réaliser le all shot au premier virage. Pecco Bagnaia déjà en tête devant Enea Bastianini qui va peut-être lui faire l'intérieur. Troisième position pour Jack Miller, quatrième position pour Jorge Martin et cinquième position pour Fabio Quartararo. Départ manqué pour Juan Zarco qui se retrouve dans le paquet à la dixième position seulement. On s'attendait à voir les Ducati réaliser le all shot. Hein. François et Manu, on le disait, avec eh bien une superbe séance de qualification. Et eh bien Pecco Bagnaia n'aura pas manqué son envol devant Enea Bastianini, l'auteur de la pole position. Jack Miller, le coéquipier de Pecco Bagnaia, qui est en troisième position. Et on voit Juan Zarco seulement dixième essayer de grappiller quelques places à l'issue de ce premier tour. Fabio Quartararo, lui, en cinquième position, autant dire qu'il n'a pas perdu ni gagné de place lors de ce départ. Et puis François, une précision très importante alors qu'il y a une chute d'un pilote Suzuki, me semble-t'il, drapeau jaune, oui, une chute pour Joan Mir, champion du monde il y a deux saisons, déjà au tapis sans gravité, il se relève, Joan Mir, le pilote Suzuki. Oui, on le disait, une précision importante sur ce tracé de Spielberg. Il y a deux saisons, il y avait eu un effroyable accident entre Franco Morbidelli et Joan Zarco. On était passé tout proche de la catastrophe, la moto qui avait volé au-dessus de Valentino Rossi. Et donc cette année, eh bien, les organisateurs de ce Grand Prix d'Autriche ont décidé de mettre une chicane pour ralentir les motos GP qui arrivaient à plus de 330 km/h au bout de cette longue remontée en ligne droite. Donc une chicane qui va évidemment amener du spectacle ici sur ce tracé du Red Bull Ring, alors que l'on on termine le premier tour. Pecco Bagnaia est en tête devant Enea Bastianini, Jack Miller est troisième, Jorge Martin quatrième, Maverick Vinales qui vient de déposer Fabio Quartararo, Fabio Quartararo sixième, Luca Marini septième, et on retrouve un petit peu plus loin Juan Zarco qui a perdu trois places et qui est donc en neuvième position donc à l'issue de ce premier tour ici à Spielberg.
Ça va pas être simple pour Quartararo, évidemment il va falloir essayer de dépasser tous ces bonhommes là qui sont devant lui. On sait qu'il en est capable, mais c'est compliqué avec sa moto.
Oui, avec sa Yamaha qui manque de puissance, je pense qu'il va rester derrière. Il va essayer de limiter les dégâts, non, Paul ?
Mais ce sera ça, Manu, ouais, jusqu'à la fin de la saison. Il le déclara en conférence de presse d'après qualification. Nous souffrons d'un déficit de puissance, peut-être d'un petit manque de grip sur ce tracé de Spielberg. Et la Yamaha n'aime pas courir derrière d'autres motos. Les plaquettes de frein chauffent. La moto n'est pas si à l'aise que ça. C'est bien pour ça que Fabio Quartararo n'est jamais aussi bon. Un petit peu comme Marc Marquez l'était à son époque lorsqu'il part devant. Et là, on voit déjà qu'après deux tours, il compte quasiment deux secondes de retard Pecco Bagnaia. Les Ducati qui sont en train de s'envoler, ce n'est pas une surprise. Jean-Luc Roy, d'ailleurs, dans les paris RMC, avait fait de Pecco Bagnaia son favori. Il est en train de mener cette meute de Ducati. On rappelle le classement.
Alors,
si Jean-Luc l'a dit, on peut lui faire confiance. Après quasiment deux tours de bouclée, donc Pecco Bagnaia qui compte deux dixièmes d'avance sur Enea Bastianini, l'auteur de la pole position. Troisième place pour Jack Miller, quatrième place pour Jorge Martin et seulement la sixième position pour Fabio Quartararo, relégué à une seconde et huit dixièmes donc du pilote Pecco Bagnaia. Et puis on rappellera aussi, on n'en a pas parlé, François et Manu, le classement de ce championnat du monde de MotoGP. Donc après 12 courses, Fabio Quartararo est toujours en tête avec 180 points. Il a 22 points d'avance sur Aleix Espargaró, son dauphin, mais Pecco Bagnaia n'est plus qu'à 49 points. Lui qui en comptait 80 de retard il y a deux courses a fait quasiment la moitié de son retard, donc avec ses victoires à Assen et aux Pays-Bas. Et en menant ce Grand Prix, s'il venait à s'imposer cet après-midi, il redeviendrait certainement le rival le plus naturel face à Fabio Quartararo, donc pour l'obtention du titre de champion du monde en fin de saison. Il reste, François, 7 courses à disputer d'ici à la fin de ce championnat du monde MotoGP 2022.
Très bien Paul, on suit ce Grand Prix d'Autriche bien sûr avec toi. 6ème place pour l'instant donc pour le français Quartararo, la 8ème pour l'autre français Joan Zarco. On suit ça de très près et tu nous appelles bien évidemment. On retourne au stade de la Méno, 2ème mi-temps qui va reprendre, 2ème période plutôt, entre Strasbourg et Reims. Sébastien Ruffet avec donc Strasbourg qui mène 1-0.
Et oui, ça va reprendre dans quelques secondes sous le regard chaleureux et amical d'un certain Gilbert B. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler.
Gilbert B.
Gilbert B. Et Gilbert B. est là en personne.
Oh bah tu le salues.
Ce sera fait. Et le coup d'envoi qui est donné à l'instant pour cette deuxième mi-temps. 1-0 donc pour les Strasbourgeois et ce but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps signé Alex Djikou. Il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre. On va voir si les Rémois confirment leur bonne première mi-temps. 7 tirs à 4 pour les Rémois dont 3 cadrés. Un seul tir cadré pour les Strasbourgeois. Et qui allait au fond sur ce coup de pied arrêté, ce corner de la dernière minute du temps additionnel. C'était un peu dur, hein, on l'a dit, pour les Rémois. Il va falloir se remettre dans le bon sens tout de suite et remettre la même intensité qu'ils ont su mettre. Hein. C'est sincèrement, on parlait avec un collègue qui suit le stade de Reims, qui disait pour l'instant sur les trois matchs, c'est nettement, c'est ce qu'ils ont fait de nettement mieux pour l'instant dans ce championnat. Il va falloir confirmer. Et les Strasbourgeois vont devoir aussi nous montrer un petit peu plus de choses hein, qu'en première mi-temps. Ils ont eu un petit peu de mal sur les sorties de balles. Ça manque un peu de fluidité, ils sont parfois un peu battus dans les duels, mais bon, ils l'ont déjà fait contre Monaco et contre Nice, une première mi-temps hésitante et toujours un peu mieux en deuxième, donc ça peut nous donner vraiment une très très belle deuxième mi-temps. Allez, premier ballon pour peut-être Kevin Camero, là au milieu de terrain il va se battre, mais ça va être récupéré par les Rémois. Une minute de jeu donc, et donc toujours 1-0 pour Strasbourg face à Reims.
Il y a deux Gilbert légendaires à Strasbourg, il y a Gilbert Grèce et Gilbert Bribois évidemment, qui fait l'after ce soir en plus, hein, donc il va vite partir après la rencontre quand même Gilbert.
C'est l'avantage du match à 13h.
c'est vrai. Il aurait peut-être pas tenté avec un match à 15h. Peut-être pas. En tout cas, 1-0 pour Strasbourg face à Reims. Manu, comment tu vois cette deuxième période? On a vu des Rémois, ils ont dû prendre un coup sur la tête hein, quand
ah
même.
Oui, complètement. Non, je pense que leur entraîneur Garcia a dû leur demander de continuer comme ça, mais être un peu plus efficace devant le but, dans le dernier geste aussi. Et puis, l'entraîneur de Strasbourg, sûrement, poussait une petite gueulante parce qu'au niveau de la qualité du jeu collectif, autant offensif que défensif, ça a été vraiment très 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 moyen. Ils ont couru particulièrement tout le long de cette première mi-temps derrière le ballon, ils n'ont pas pu s'organiser collectivement et ça inquiète aussi l'entraîneur. Donc remobiliser au niveau de Strasbourg et continuer dans cette voie-là pour Reims.
Strasbourg-Reims 1-0 pour l'instant pour les Strasbourgeois. On retourne à la moto avec toi Paul, où on en est? Est-ce que les Français refont leur retard un petit peu dans ce Grand Prix d'Autriche?
C'est un petit peu difficile, même si là Johann Zarco va peut-être déposer Aleix Espargaró pour l'obtention de la 7ème position, donc finalement le pilote espagnol qui reste eh bien, en 7ème position, alors que là on a vu Maverick Viñales se rater complètement, ce qui profite à Fabio Quartararo qui gagne une place François pour se retrouver en 5ème position. Le MotoGP là, cette course qui est toujours dominée après 4 tours par Pecco Bagnaia devant Jack Miller qui vient de déposer Enea Bastianini, l'auteur de la pole position, qui se retrouve donc en 3ème position, le pilote du team Gresini, la 4ème place pour le coéquipier de Johann Zarco, Jorge Martin, et donc le premier français Fabio Quartararo en 5ème position, qui n'est pas très très loin, à moins d'une seconde donc de la 4ème place, mais pour la gagne eh bien ça semble déjà compliqué tant le rythme des Ducati est impressionnant sur ce tracé de Spielberg ici en Autriche. Mais Fabio Quartararo qui s'accroche et qui revient peut-être dans les pots d'échappement d'Enea Bastianini. Pour la victoire, ça semble déjà compliqué, mais en tout cas pourquoi pas l'obtention d'un podium à la fin de cette course. En tout cas, Fabio ne lâche pas les armes, il se bat comme un beau diable évidemment avec son numéro 20 placardé sur sa moto. On rappelle le classement François, donc après 5 tours de couvert, Pecco Bagnaia est en tête avec 4 dixièmes d'avance sur Jack Miller, 3ème position pour Jorge Martin, 4ème place pour Enea Bastianini, et Fabio Quartararo qui se colle au carénage eh bien, d'Enea Bastianini et qui passe le pilote italien. Eh bien Fabio Quartararo gagne une place supplémentaire, alors que là Jorge Martin n'en s'est loupé, c'est Johann Zarco qui s'est loupé au freinage. Johann Zarco qui est désormais eh bien 10ème de ce classement général. En tout cas pour Fabio ça se passe un petit peu mieux, 4ème position donc pour El Diablo, relégué à 1 seconde et 8 dixièmes du leader de ce Grand Prix. Il s'agit de Pecco Bagnaia.
14h09 sur RMC dans l'Intégral Sport. On va faire un point également sur la Vuelta, Johan Bredov qui suit cette 3ème étape du Tour d'Espagne.
Il reste 134 km dans cette boucle hein, de Breda à Breda, une grande boucle donc avec plus de 190 km au départ, 134 encore restant, 3 minutes d'avance pour cet homme, parmi lesquels on a des noms qu'on connaît, Rosé Rada, un coureur de la Cofidis, on a également deux Belges, Yann Bakelant et Thomas De Gendt, évidemment le nom le plus ronflant de ces 7 hommes échappés, 3 minutes d'avance je le disais sur le peloton avec le maillot rouge d'ailleurs qui a changé d'épaule hier, il reste dans la même équipe, la Jumbo-Visma évidemment qui avait gagné le contrôle à montre par équipe lors de l'étape inaugurale, mais il passe sur les épaules Poel de Teunissen qui a fait quatrième hier, donc au jeu des classements cumulés, si tu veux. Il le prend à son compatriote et coéquipier Robert Gesink. Voilà, maillot rouge pour Teunissen. Sinon, on attend évidemment un sprint massif aux alentours de 17h15 avec tous ceux qui étaient devant hier, Sam Bennett, Mats Pedersen, Tim Merlier et pourquoi pas Brian Coquard.
Ok Johan, du vélo également au championnat d'Europe de Munich avec la course en ligne féminine, Valentin Jamain.
Une arrivée qui se rapproche, encore 23 km à parcourir. On est dans Munich maintenant, un circuit de 13 km qu'on va parcourir deux fois, donc une boucle pour les coureuses peloton groupées. On voit les Néerlandaises mener le peloton pour emmener leurs sprinteuses et la grande favorite Lorena Vibes, mais les Françaises sont là également. On les a vues aller un petit peu à l'arrière du peloton quand ça ralentissait pour discuter, probablement élaborer une stratégie. Il faudrait essayer de sortir de ce peloton pour éventuellement jouer la gagne. Elles sont très actives et probablement ambitieuses, les tricolores. Il reste 22 km à parcourir.
Merci Valentin, on te retrouve bien sûr dans un instant. Corner important et intéressant pour Reims, la Méno, Sébastien Ruffet.
Ouais, on joue la cinquième minute dans cette deuxième mi-temps et un premier corner pour les Rémois qui va être tiré par Junior Ito, le japonais. Ça va être sortant, c'est pas mal tiré encore une fois. Woodfest qui va pas réussir à s'imposer, ce sera repoussé par la défense strasbourgeoise et peut-être une deuxième chance à venir avec un ballon là dans la boîte. Est-ce que Gravillon va y aller? Oui, il va y aller, mais il va être un petit peu court et ça va être saisi par Matsels qui essaie de rentrer très très vite. Quelle relance de Matsels sur Habib Diallo, incroyable, qui réussit à contrôler ce ballon, à jouer en appui avec Adrien Thomasson. Thomasson qui cherche une solution devant lui, il n'y en a pas, il va donc repasser par Persic et on est déjà très bien revenu du côté strasbourgeois, même si on va pouvoir continuer quand même à produire du jeu là-bas sur le côté droit avec Thomas Delaine. Le centre, deuxième poteau, ça va être un petit peu trop long, même si Adrien Thomasson continue au pressing. Un petit duel là devant le poteau de corner, le ballon toujours dans les pieds des Strasbourgeois avec Dimitri Liénard depuis ce dégagement de Matsels. C'est en possession de balle hein, pour les Strasbourgeois. Le double 1-2, triple 1-2, c'est incroyable. Kevin Gamero peut-être le retour. Ouh. Oh mais quelle action là, on retrouve le jeu strasbourgeois,
c'est beaucoup mieux hein.
Ah ouais avec ce double 1-2 avec Persic, Thomasson, Diallo, Gamero, ça c'est une belle action comme on aime les voir à la Méno et d'ailleurs n'importe où en France hein, on adore ce style de jeu. Le ballon un tout petit peu haut peut-être pour Kevin Gamero qui est obligé d'essayer de le contrôler, il ne peut pas le reprendre comme elle vient et c'est ce qui permet à Gravillon de revenir au dernier moment pour dégager ce ballon en corner donc pour Dimitri Liénard.
Magnifique.
Devant le COP, ouais. Là, le mur bleu qui se réveille un petit peu dans ce début de deuxième mi-temps et qui va essayer de pousser un petit peu son équipe pour pourquoi pas se mettre un petit peu à l'abri dans cette rencontre. C'est parti pour Dimitri Liénard, bien tiré également en deuxième poteau, la tête de Djiku, elle est juste au-dessus, on a bien cru qu'elle allait redescendre. Pence qui était me semble-t-il battu sur cette tête un petit peu lobée, deuxième poteau là de Djiku, mais elle retombe sur le filet. 53e minute ici à la Méno, 1-0 pour Strasbourg face à Reims.
Ça va beaucoup mieux pour Strasbourg effectivement, les Strasbourgeois qui mènent toujours dans cette troisième journée de Ligue 1 avant de retourner à la moto. Un petit détour par les championnats d'Europe de Munich avec le canoë, Morgan Maurier.
Oui François, dans un instant la troisième finale française de l'après-midi avec le K4 femmes, le kayak à 4. Les Françaises Alindo numéro 3, je vous donne leur nom: Manon Ostens, Vanina Paoletti, Margot Brice-Walter et Léa Jamelot.
Très bien, on va suivre ça évidemment avec toi Morgan. La moto, le Grand Prix d'Autriche, Paul Lafitte, où en sont Fabio Quartararo et Johan Zarco?
Fabio Quartararo est en quatrième position, Johan Zarco huitième, ce sont les fusées rouges, les Ferrari à deux roues, les Ducati qui sont en tête après 8 tours de couvert, Pecco Bagnaia devant Jack Miller, c'est un véritable mano à mano entre les deux coéquipiers de chez Ducati, l'écurie officielle évidemment, ils ne sont séparés que d'un petit dixième. Jorge Martin sur la Ducati du team Prama qui est en train de revenir à seulement 8 dixièmes donc de Pecco Bagnaia et eh bien Fabio Quartararo est en train de limiter les dégâts en quatrième position, je le précisais il y a quelques instants, il n'est qu'à 8 dixièmes du pilote Ducati, autant dire que les espoirs sont permis pour le podium. Et là on voit Jack Miller qui va peut-être eh bien passer à l'intérieur Pecco Bagnaia, non finalement le pilote italien qui conserve sa position de pointe, mais c'est très serré donc ici donc sur ce tracé de Spielberg. Un petit mot également sur les conditions météorologiques du jour, on attendait de la pluie française aux alentours de 13h30 sur la grille de départ, eh bien finalement le temps est en train de tenir, 20 degrés dans l'air, 30 degrés sur la piste, des conditions quasi idéales donc pour ce plateau du MotoGP, emmené on le rappelle après 9 tours de couvert ici à Spielberg par Pecco Bagnaia devant Jack Miller. Jorge Martin est en 3ème position, le premier français Fabio Quartararo 4ème, Johan Zarco en 8ème position.
Ok Paul, 14h15 sur RMC, dans un instant on fait les présentations, le tour des stades pour les matchs de 15h, mais d'abord il y a ce match donc qui a commencé l'après-midi de sport, Strasbourg Strasbourg face à Reims. Troisième journée de Ligue 1. Les Strasbourgeois qui pour l'instant tiennent leur première victoire de la saison. Sébastien Ruffet à la méno.
Et oui, il mène 1-0 face au Stade de Reims après 55 minutes. Et Andrew Gravillon là qui s'est un petit peu trompé. Il a fait un superbe geste là, sur le côté droit. Il avait pris le couloir. Il avait éliminé Dimitri Liénard et Maxime Lemarchand. Et il y avait Junior Ito qui demandait le ballon avec le bras comme ça. Il disait mets-la moi. Et puis finalement, il a fait le choix de faire un centre Gravillon et son centre était pas bon du tout. Et ça a été donc rendu au Strasbourgeois. Dans son récupération haute là des Rémois, il y a un 3 contre 3 à jouer. C'est parti là-bas avec Balogun, me semble-t-il. C'est ça. Il va pouvoir centrer deuxième poteau. La tête de Ito, l'arrêt de Malcels. Oh, incroyable arrêt encore une fois. Malcels qui est décidément dans une grande forme en ce début de saison. Le centre, il est superbe. Deuxième poteau. Ito qui se jette pour la tête plongeante là à peu près à 7-8 mètres. Elle est bien cadrée, elle est là où il faut la mettre. Mais Malcels se détend tout de suite pour repousser ce ballon. Attention, deuxième centre à venir dans la foulée peut-être. Avec un ballon repoussé une première fois et qui va être récupéré par Doumbia. On repose un petit peu le ballon côté Stade de Reims avec Belhamid. On est aux 35-40 mètres des Strasbourgeois, mais il y a pour l'instant pas beaucoup de solutions. Le pressing s'enclenche doucement. Maxime Buzy sur le côté droit, la grosse faute de Dimitri Liénard qui le maillot de Buzy est passé de L à XL en une action là. C'est complètement accroché au défenseur, au piston droit du Stade de Reims à Dimitri Liénard. Et ça va donner un coup franc.
En tout cas, on a encore vu Balogun Ito.
Ouais.
Alors c'est ouais. Deux joueurs différents. Hein. C'est pas Balogun Ito. C'est Balogun Ito, le duo qui aurait pu être décisif une nouvelle fois.
Ouais, il se trouve bien décidément. Ces deux-là, il avait senti un deuxième poteau. Le centre était bon. Et Ito,
il aurait pu mieux faire. Ito, ouais, peut-être un petit contrôle et reprise de volée peut-être ou se la mener. Il était quand même tout seul. Ouais,
hein. Un peu plus de puissance en tout cas. Appuyer encore un peu plus sa tête peut-être. Ouais. Ouais. Allez, le coup franc tiré par Ito là-bas, deuxième poteau. Non, cette fois, ce sera pour les gants de Malcels. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure là avec les collègues autour d'un petit beignet à la pomme là. Ce Junior Ito, franchement, il fait très belle impression à tout le monde. On voit que c'est un joueur fin, élégant et comme on disait en fait, si tu regardes bien Manu, chaque centre, il y a quelque chose en fait. Il y a jamais un centre qui va au quatrième poteau en touche de côté ou complètement raté, ça part dans la tribune comme on le voit régulièrement. Lui, à chaque fois qu'il y a un centre, il est à ras de terre, en retrait, fort aux 6 mètres, difficile à aller chercher pour un gardien. Il se passe toujours quelque chose quand il est en situation de pouvoir donner un ballon, quoi.
Ouais, il lève la tête, il regarde. Tu sais, on dit toujours, avant de recevoir le ballon, il faut déjà avoir vu à qui on va le passer. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il regarde avant de recevoir le ballon et puis il a des gestes très précis. Et il a de la précision. Donc, malheureusement, il a loupé deux belles occasions, une en première et une là en deuxième mi-temps.
Ouais, en tout cas, il va passer attention parce qu'il là, il passe une fois, il passe deux fois. Il va revenir sur son pied gauche, peut-être la frapper. C'est Dimitri Liénard qui va revenir au dernier moment. Il avait effacé Liénard une première fois, puis Maxime Lemarchand. Il était rentré dans la surface de réparation. Ito est sur son pied gauche. Il a repris un petit appui supplémentaire. C'est ce qui a permis à Dimitri Liénard de venir contrer cette situation. On est déjà dans l'autre côté avec un 3 contre 2. Attention, Jean-Rickner Benkars qui va fixer face à Woodfest. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tergiverser, attendre et c'est beaucoup trop tard pour le milieu de terrain strasbourgeois qui aurait pu donner à Kevin Gamero à côté de lui, à Thomasson qui arrivait également, mais le ballon est récupéré déjà parce que Woodface lui aussi il a rien fait avec le ballon et il s'est fait piquer dans les pieds tout simplement. Et le ballon qui est déjà aux abords de la surface de réparation rémoise avec Persic qui joue en appui, ça revient pour Gamero, la frappe, ouh, la barre transversale, oh, le pétard envoyé par Kevin Gamero pratiquement à l'arrêt à 18 mètres et Patrick Pence qui la touche juste ce qu'il faut pour la mettre sur sa barre transversale. Il a été surpris par la violence alors que là il plonge même pas, hein, Pence, elle est sur lui, il met juste la main pour l'accompagner sur la barre.
Je sais même pas s'il la touche.
Si. Alors, en tout cas lui il a l'air de dire que non.
Si. J'ai l'impression qu'elle a touché la barre, mais oui, il n'a pas touché la barre.
Ouais. Un petit coup de bluff de Pence, peut-être, je ne sais pas s'il la touche ou pas. Ah, sur l'image, on ne voit pas trop.
J'ai l'impression qu'il ne la touche pas. En tout cas, c'est un corner quand même pour Strasbourg.
Elle est venue fort.
Hein. On tourne dans un instant à la moto, bien sûr, mais on va suivre ce corner avec toi, Sébastien.
Allez, 59 minutes précisément ici à la méno, et donc un corner pour les Strasbourgeois qui ont un petit temps fort, là, qu'il faudrait peut-être concrétiser sur ce coup de pied arrêté. Et moi qui sont en difficulté sur les coups de pied arrêtés pour l'instant cette saison, c'est bien tiré. Pence qui va s'en saisir. 59 minutes. 1-0 pour Strasbourg face à Reims.
Et oui, il y a des occasions un peu partout. Un match qui n'est pas terminé entre Strasbourg et Reims. On va à la moto, le Grand Prix d'Autriche. Où on en est, Paul Lafitte?
Et il reste 16 tours à courir, donc ici sur ce Red Bull Ring à Spielberg. Et Pecco Bagnaia est en tête et compte désormais 6 dixièmes d'avance sur Jack Miller, son coéquipier. La troisième position pour Jorge Martin, qui est dans la boîte de vitesse donc de Jack Miller. La quatrième position pour Fabio Quartararo, qui est relégué à quasiment une seconde et deux dixièmes de Jorge Martin. Un petit peu plus loin, Aleix Espargaró, le dauphin, on le rappelle, au classement du championnat du monde de Fabio Quartararo, en cinquième position. Maverick Vinales, le pilote Aprilette, sixième. Luca Marini, eh bien, est en septième position. Et on retrouve Juan Zarco en huitième position. Puis à noter, messieurs, l'abandon de l'auteur de la pole position, Enea Bastianini, qui était sorti de la piste et il a préféré regagner son stand, mécontent donc de la performance de sa Ducati. Mais pour l'instant, c'est bel et bien Pecco Bagnaia qui reste sur deux victoires consécutives, qui est en tête avec quasiment 6 dixièmes d'avance sur Jack Miller et 2 dixièmes de plus sur Jorge Martin. Fabio Quartararo est en 4e position, Juan Zarco en 8e position.
Valentin Jamin, la course en ligne au championnat d'Europe de Munich chez les dames, qu'est-ce que ça donne, Valentin?
14 km de l'arrivée, cela veut dire que les coureuses vont repasser une nouvelle fois sur la ligne dans quelques instants pour faire la dernière boucle de 13 km et une Française est devant, 50-40 mètres d'avance peut-être. Il s'agit de Juliette Labousse, la jeune grimpeuse de 23 ans, 4e du Tour de France femme. Elle a réussi à créer un écart, elle est accompagnée d'une Espagnole et d'une Allemande. Je vous le disais, les Françaises offensives et pour l'instant Juliette Labousse qui a donc pris quelques mètres d'avance. Le peloton n'est pas loin, là en visu, et les Néerlandaises continuent d'emmener ce peloton pour éventuellement espérer en tout cas un sprint de leur leader Lorena Vibes. 15 km encore à parcourir, un tout petit peu moins même dans ces championnats d'Europe.
Ok Valentin, à tout à l'heure, 14h21 sur RMC, on revient dans un instant, mais d'abord le temps, le score entre Strasbourg et Reims, Sébastien Ruffet.
61 minutes, 1-0 pour Strasbourg face à Reims, le but de Djikou à la 45e plus 3.
La suite et la fin de cette rencontre bien sûr, et puis le Grand Prix moto, la suite et la fin également de Grand Prix d'Autriche à suivre sur RMC dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
Il est 14h24, vous êtes sur RMC. Dans un instant, on retourne au stade de la Méno pour suivre Strasbourg-Reims. Toujours 1-0 pour les Strasbourgeois, but de Djikou. Mais d'abord la moto avec le Grand Prix d'Autriche, Paul Lafitte, Quartararo qui vise le podium.
Et oui, qui est en train de remonter, François. Si les positions sont toujours inchangées à 13 tours de l'arrivée, Pecco Bagnaia n'a plus que 6 dixièmes d'avance sur Jack Miller. Jack Miller n'a que 3 dixièmes d'avance sur Jorge Martin. Et Fabio Quartararo est revenu à moins d'une demi-seconde de Jorge Martin, lui qui comptait quasiment une seconde et 6 dixièmes de retard en 3 tours. Le pilote Yamaha officiel, champion du monde en titre, eh bien, a repris une seconde donc à ses plus proches rivaux, avec une monte de pneus différente, un pneu dur à l'avant pour Fabio Quartararo, alors que les pilotes Ducati ont chaussé des médiums. Peut-être qu'en fin de course, eh bien, il pourrait revenir. En tout cas, visuellement on le voit, il est en train de revenir, claquer, eh bien, record du tour sur record du tour. Ce n'est pas encore fait, car la puissance des Ducati dans les lignes droites, il sera difficile à Fabio Quartararo de doubler, eh bien, ses rivaux. Mais en tout cas, il ne lâche pas, il se concentre, il cravache Fabio Quartararo pour essayer de revenir. Alors que là, c'est une sortie de piste de Jorge Martin. Jorge Martin qui a manqué la chicane et qui va peut-être voir Fabio Quartararo, eh bien, le doubler à l'issue de cette ligne droite. C'est fait. Troisième position pour Fabio Quartararo, qui a donc profité, eh bien, d'un écart, d'une sortie de piste de Jorge Martin, qui mettait la pression sur Jack Miller. On rappellera le classement évidemment à 12 tours de l'arrivée. Pecco Bagnaia est en tête devant Jack Miller. La troisième position désormais pour Fabio Quartararo, la quatrième pour Jorge Martin. Aleix Espargaró est en cinquième position et on retrouve un petit peu plus loin dans le paquet Juan Zarco, englué à la huitième position. Mais ça semble peut-être bon, messieurs, pour le podium. En tout cas, Fabio Quartararo est désormais troisième de ce Grand Prix de Spielberg en Autriche, à 12 tours de l'arrivée.
Parfait, Paul. On est avec Manu Amoros dans cet Intégral Sport. On suit bien sûr ce Grand Prix avec toi. Dans un instant, présentation des matchs de 15h que vous suivez en direct et en intégralité sur RMC. Les matchs de la troisième journée de Ligue 1, Angers-Brest, Montpellier, Auxerre, Toulouse-Lorient et Clermont-Nice. Mais d'abord, direction le stade de la Méno. Strasbourg qui mène toujours 1-0 face à Reims, Sébastien Ruffet.
66 minutes ici au stade de la Méno, toujours 1-0 effectivement. Et attention, les Rémois qui ne vont pas pouvoir profiter de Thomasson qui se glisse pour récupérer ce ballon aux 16 mètres et empêcher la reprise peut-être de locaux. Des Rémois qui ont eu un petit temps faible mais qui commencent à reverdir un petit peu, qui vont un petit peu mieux avec notamment Ito qui continue ses courses incessantes dans le dos de la défense. Je ne sais pas s'il va tenir tout le match comme comme ça. Grosse débauche d'énergie pour l'instant, mais comme pour tous ses camarades. Hein, voilà, on le cite lui parce que voilà, il est dans quand même dans pratiquement tous les bons coups. Mais tous les autres font le boulot. Quelques changements à vous signaler. Côté Rémois, d'abord un changement avec la sortie de Dion Lopi et l'entrée de Herbert Zeleny. On n'a pas changé de dispositif. Hein. Doumbia a reculé d'un cran et Zeleny est venu se positionner derrière les deux attaquants. Et puis on a eu également un double changement côté Strasbourgeois avec la sortie de Diallo et Liénard. Je suis cette occasion de but en même temps là avec Ludovica Jorc qui va pas réussir à se retourner. Non, bien joué de la part de Woodfess qui va lui passer devant. Liénard est sorti et Ronel Pierre-Gabriel est entré. Il a pris le couloir droit et Thomas Delaine est parti de l'autre côté. Et puis la sortie d'Abib Diallo pour l'entrée donc de Ludovic Ajorc. 67 minutes ici, 1-0 pour Strasbourg face à Reims.
C'est toujours étrange effectivement de voir Ajorc remplaçant à Strasbourg, mais on a expliqué avec toi Manu et avec toi Seb les problématiques des entraîneurs et du mercato. Voilà, c'est pour ça qu'il est entré seulement maintenant en jeu et on va suivre bien sûr sa performance. À 15h, match de la troisième journée de Ligue 1 à suivre. Dans un instant, on ira à Toulouse pour Toulouse-Lorient, à Clermont pour Clermont-Nice, mais d'abord, on va prendre la direction d'Angers où Pierre-Yves Leroux est déjà sur place pour Angers-Brest. Salut Pierre-Yves.
Salut à tous. Viens là parce que tu sais que c'est ce match-là qui est important.
En tout cas, tu vas devoir nous convaincre et convaincre surtout Manu. Pourquoi il faut absolument suivre Angers-Brest. Sois convaincant, Pierre-Yves.
Manu, il est, je pense, déjà convaincu parce qu'il n'y a aucun suspense dans ce championnat pour connaître le nom du vainqueur avec le vrai sel de la Ligue 1. Bah, c'est celui qui sent la sueur, les larmes, c'est-à-dire la lutte pour ne pas descendre en Ligue 2, vous êtes d'accord? Et ça, c'est passionnant. Et ça, oui, messieurs, dames, c'est le championnat de Brest et de Angers, des équipes qui sentent bon le terroir, qui ont déjà d'ailleurs un peu les pieds dans la boue, il faut le dire, car ni les hommes de Gérald Batic, ni ceux de Michel Derzakarian n'ont réussi à s'imposer lors des deux premières journées. Mais Brest a été capable de tenir Marseille en échec. Et Angers, mené 2-0, a été capable d'inverser la tendance face à Auxerre. Voilà des équipes de caractère, vous dis-je. Eh bien, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire.
Il est fort, il est fort.
Convaincu, Manu ?
Non, pas des masses, non. C'est vrai que ces deux équipes qui sont dans le dur quand même.
J'avais prévu une version plus soft, mais bon, tant pis.
Non, mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. Il n'y a même pas un joueur à suivre, là, qu'il faut absolument regarder. Je sais pas.
Si, Youssef Belaïli, parce que il est titulaire à la place de Franck Honorat, tu vois, ça c'est intéressant.
Mais oui, tout à fait. Non, mais Belaïli, c'est un des joueurs, spectaculaires du championnat de France. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant de le suivre. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Coup d'envoi à 15h de ce Angers-Brest et on le suivra, bien évidemment. Tout à fait. Montpellier Auxerre également à suivre avec Julien Landry qui sera au commentaire. Salut, Julien.
Salut, François. Salut, Munine. Je vais essayer d'être plus convaincant que Pile. Ça devrait pas être trop difficile parce que je crois que même lui, il savait pas pourquoi il était là, en fait. Alors, je crois qu'il s'est trompé.
Ce Montpellier Auxerre, Julien.
Parce qu'il va y avoir du spectacle à la Mosso, parce que on a affaire peut-être aux deux plus mauvaises défenses de notre championnat. Montpellier a déjà encaissé 21 buts depuis le début du mois de juillet. Benoît Costil reste sur 28 matchs consécutifs en encaissant un but. Et puis il y a des joueurs à vocation offensive très intéressants côté montpelliérain, Wabi Kazri, Eli Wahi, Arnaud Nordin qui va faire sa première cet après-midi avec le maillot montpelliérain. Montpellier avait marqué 3 buts contre 3. On s'était régalé, l'un des meilleurs matchs de cette première journée. Et puis s'il y a un joueur à suivre au mois d'août avec sa chevelure magnifique, cette couleur teintée, c'est TJ Savagnier, l'homme du mois d'août de Montpellier. Il vit au camping, il joue au bout de la semaine et il régale les supporters montpelliérains le dimanche avec ses coups de patte. Et TJ Savagnier va encore sortir un petit coup miraculeux de son pied droit pour faire lever le public payadin.
Toi, tu sais comment convaincre Manu, tu parles
évidemment
de pétanque.
Je voulais parler d'hippodrome, mais ça marchait moins bien.
Si tu parles de pétanque, c'est même pas du jeu. Manu est convaincu.
Oui, là, complètement. Je te suis à 100%, Julien.
Montpellier Auxerre, non, mais ça va forcément être intéressant, évidemment, de suivre ces deux équipes, Montpellier et Auxerre, avec toi, Julien, à partir de 15h. Donc, merci beaucoup, Julien. À tout à l'heure. Allez, on retourne à la Ligue 1, Strasbourg-Reims, avec un coup franc pour les Strasbourgeois, Sébastien Ruffet.
J'aime bien, comme tu dis, on retourne à la Ligue 1 après avoir parlé de Montpellier Auxerre.
Excuse-moi.
C'est pas, non, mais moi, ça me va très bien, parce qu'on sait que le vrai match, en fait, il est là cet après-midi. Le derby de la 4.
Allez, vends-nous ton coup franc.
C'est parti, attention, un coup franc pour les Strasbourgeois. Il est pas mal tiré par Bellegarde. Attention, Sanil Perisic qui va essayer de la reprendre, mais c'est complètement sans conviction. Il a hésité, je pense qu'il s'est dit allez, je l'attente. Et puis après, il s'est dit je suis quand même un petit peu loin. Et puis le geste était parti. Et voilà, et ça a donné quelque chose de pas terrible. 25 175 spectateurs, le chiffre officiel qui tombe à l'instant.
Bon, Gilbert Bribois.
d'origine Berbry, ouais, il faut le rappeler. Et donc ça veut dire qu'on est comme toujours sur nos standards de 97-98% de taux de remplissage au stade de la Méno, avec plus de 19 000 abonnés encore cette année sur un stade de 26 000. Ça reste très très beau et forcément on le dit, c'est pas moi qui le dis, mais un des meilleurs publics de France, dans le sens où il est là à chaque match. Non mais voilà, ça choisit pas les matchs. Disons que contre Reims c'est plein. Contre Reims c'est plein, tu vois, contre Brest c'est plein. C'est pas que contre Paris, Marseille ou Lyon, quoi. C'est plein à chaque fois, c'est un public qui aime son club et le confirme encore cet après-midi. Allez, une situation pour Pierre Gabriel là-bas sur le côté droit. Il va donner à Adrien Thomasson avec peut-être un centre à venir, une louche de Thomasson, mais elle est un petit peu haute, un peu compliquée là pour Pierre Gabriel. Mais ce ballon qui va peut-être quand même revenir, non, ça va être dégagé, c'est un peu confus. Mais les Rémois réussissent à se dégager. 72 minutes ici à la Méno, ça s'est un petit peu calmé, il y a un petit temps faible là dans cette partie. Avec un nouveau changement à venir sans doute, voire deux du côté Rémois dans un instant. 1-0 toujours pour Strasbourg face à Reims.
Ok, on va en profiter pour aller du côté de la moto, le Grand Prix d'Autriche à suivre en direct sur RMC avec Paul Lafitte, avec cette troisième place de Quartararo.
Oui, c'est en train de s'animer car Fabio Quartararo est dans les échappements de Jack Miller pour la deuxième position, lui qui comptait, François et Manu, un petit peu plus d'une seconde et 5 dixièmes de retard il y a 7 tours, est revenu à 2 dixièmes de Jack Miller et il n'y a qu'une seconde d'écart entre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Autant dire que pour l'instant les Ducati sont toujours devant, mais que Fabio Quartararo est en train de produire un superbe effort pour essayer de recoller tout d'abord sur Jack Miller. Ça semble un petit peu plus difficile d'aller chercher Pecco Bagnaia qui à moins d'une chute ou d'un problème mécanique devrait s'envoler vers une troisième victoire de rang, une cinquième victoire cette saison dans cette catégorie de MotoGP. Mais Fabio Quartararo, qui a courbé les chines en début de Grand Prix, est en train de recoller et il limiterait les dégâts évidemment au classement du championnat du monde, car lorsque l'on regarde le classement de cette course, Aleix Espargaró n'est qu'en sixième position. Autant dire que le Français compterait ce soir, si le classement restait là, 26 points d'avance sur le pilote Aprilia et 40 points d'avance sur Pecco Bagnaia. L'autre Français du jour, Johan Zarco, est en septième position. Il ne jouera pas le podium, c'est certain, mais on le rappelle, grâce à sa monte pneumatique, un pneu dur devant pour Fabio Quartararo, il est en train de revenir grignoter centième par centième le retard qu'il avait sur les deux pilotes Ducati à 7 tours de l'arrivée. Donc suspense se garantit pour le podium, pourquoi pas une deuxième place à venir pour El Diablo. On rappelle le classement, messieurs, à 7 tours de l'arrivée, Pecco Bagnaia est en tête avec une seconde d'avance sur Jack Miller, qui ne précède Fabio Quartararo que de 2 dixièmes. La quatrième position pour Jorge Martin. Luca Marini referme ce top 5, enfin en septième position le pilote français du team Ducati Pramac, j'ai nommé Johan Zarco, messieurs.
Ok Paul, à tout de suite. Strasbourg mène pour l'instant face à Reims 1-0, et tout de suite à 14h34 c'est l'heure du défi hippique sur RMC.
RMC
le défi hippique
avec Dimitri Blanc-L'Œil aujourd'hui. Bonjour Dimitri.
Salut François, salut Manu.
Bonjour à tous. Pour ton défi hippique du dimanche,
Je vais rappeler surtout à tout le monde qu'est-ce que le défi hippique. Il y a un auditeur qui va venir nous rejoindre, il va choisir un cheval dans le quintet, moi aussi, si son cheval est devant moi, et il revient demain et à chaque fois il augmente sa cagnotte. Il n'y a que sur RMC que vous avez ça. Et on accueille tout de suite Vincent de 16 qui vient avec nous et rejoindre la Dream Team. Salut Vincent.
Salut à tous.
Salut Vincent.
Vincent, bienvenue. Vincent, tu vas choisir qui dans le quintet du jour? Alors, je répète le quintet. Deauville, 15h15, numéro 6 et non partant. Fais attention, ne choisis pas Omel.
Non, j'ai pris Shams Abad, le 5.
D'accord, le numéro 5 Shams Abad qui est proposé à 8,40. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi lui?
Il est habitué de la distance. Il part aujourd'hui avec une bonne valeur. Il a un bon numéro dans la stalle. Et puis surtout, il a Picone en très grande forme sur le dos, donc je pense que tout est réuni aujourd'hui pour ce quintet.
D'accord. Donc pour ceux qui veulent suivre Vincent dans le quintet, 15h15 aujourd'hui à Deauville, ce sera commenté en direct sur RMC, bien entendu. Shams Abad. Alors moi, pour choisir mon cheval, je vais pas m'embêter. Je vais aller voir mon joker. C'est Manu Amoros. Ça va être plus simple. C'est Manu qui va choisir pour moi.
Ah, tu te vois pas trop, toi. Hein.
Non, c'est du galop. Moi, je suis plutôt trotteur.
Moi, je suis aussi trotteur.
Écoute, tu te débrouilles avec toi, Manu.
Moi, je vais te proposer le 15.
Ok, c'est Letty Marvel.
Voilà, c'est ça.
T'as un petit argument, t'as un argument derrière ou tu me le lâches comme ça?
Non, je crois que... je pense qu'il a visé cette course parce que la dernière course, il a fini 8e. Les deux courses avant, il a fini dans les premiers, je crois, 2e, 3e.
Oui, il a fait des podiums.
Voilà, il a fait des podiums et je pense qu'il a préparé pour cela. Il a une bonne valeur. Ça peut être intéressant.
Bon, je vais te faire confiance, Manu. Allez, avec ce numéro 15, Letty Marvel.
Demain, alors, c'est du cas.
Toi, t'es là tous les jours. C'est ta raison. Bon, je rappelle la règle quand même. Pour Vincent, si son numéro 5 termine devant le numéro 15 dans le quintet du jour, en commenté en direct sur RMC à 15h15, il revient une nouvelle fois demain. Allez, à tout à l'heure.
Parfait. Merci beaucoup, Dimitri.
Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et bravo Manu, hein, qui peut parler de tout, de foot bien sûr, mais également de course et de moto. Le point sur la course, Paul Lafitte, ce Grand Prix d'Autriche.
Oui, on est rentré dans le Money Time. 5 tours à couvrir. Pecco Bagnaia est en tête avec une seconde d'avance sur Jack Miller. 3 dixièmes d'avance pour l'Australien sur Fabio Quartararo qui est en 3e position. 4e, Jorge Martin. Et on retrouve en 7e position Johann Zarco. Donc les 5 derniers tours ici sur ce Red Bull Ring de Spielberg en Autriche.
Merci Paul. Le temps, le score à Strasbourg pour Strasbourg-Reims.
Encore un petit quart d'heure à jouer. 76 minutes ici. 1-0 pour Strasbourg face à Reims. Le but d'Alex Djikou dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.
Les championnats d'Europe de Munich avec la course en ligne féminine. Valentin Jamin.
3 km de l'arrivée, les 3 échappées viennent d'être reprises par le peloton. Il y avait la Française, notamment Juliette Labousse. Ça va se jouer au sprint. Les Pays-Bas emmènent toujours pour la grande favorite, Lorena Vives.
Le canoë kayak à Munich également avec Morgan Mori.
3e, 7e place de l'après-midi pour les tricolores. Cette fois, c'est le kayak à 4 féminin sur 500 mètres qui termine 7e de sa finale. Il reste une finale de 5000 mètres en kayak masculin.
La moto avec Fabio Quartararo qui prend une place, qui gagne une place.
Le dépassement, messieurs, dames, de Fabio Quartararo dans la chicane. Il vient taper la deuxième place à Jack Miller qui est lui-même mis sous pression par Jorge Martin. On le sentait venir. Fabio Quartararo qui était cinquième a grappillé son retard et passé quatrième, a dépassé Jorge Martin et là vient de déposer Jack Miller. Il reste 4 tours à couvrir, un drapeau jaune car il y a eu un pilote qui a chuté. Pecco Bagnaia va s'envoler vers cette victoire, mais la deuxième place serait importantissime pour le pilote Yamaha, le champion du monde en titre, Fabio Quartararo. Attention à la puissance de feu dans la ligne droite des Ducati, mais très très belle opération donc pour Fabio Quartararo qui est en deuxième position. La course toujours menée par Pecco Bagnaia avec une seconde et 6 dixièmes d'avance sur Fabio Quartararo. On retrouve un petit peu plus loin Johann Zarco en 6e position de ce Grand Prix donc en Autriche, ici à Spielberg. 4 tours à couvrir donc pour Fabio Quartararo en 2e position de cette course.
Parfait, restez bien avec nous pour suivre la fin de cette course et bien sûr la fin également de Strasbourg-Reims. L'Intégral Sport revient tout de suite avec Manu Amoros. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
14h40 sur RMC l'Intégral Sport avec Manu Amoros. Cet après-midi est parfaitement parti. Il y a beaucoup beaucoup de choses à vous raconter et notamment en moto. On y retourne dans un instant au Quartararo et pour l'instant deuxième du Grand Prix d'Autriche. Mais d'abord un petit point sur Strasbourg-Reims, match de la 3e journée de Ligue 1. Sébastien Ruffet.
Et on entre dans les 10 dernières minutes, toujours 1-0 pour les Strasbourgeois. Ça devient très dur physiquement pour les deux équipes, on le sent, hein. C'est pour ça qu'on a fait encore quelques changements. Attention, le centre au deuxième poteau de Zeni, le centre, est-ce qu'ils vont la mettre? Oui, ça y est, elle est dedans. Oui, but pour Strasbourg, pour Reims, pardon. Eh oui, non, parce qu'en fait, ce ballon qui traînait devant la surface de réparation, pardon, devant la ligne de but, une fois, deux fois, et Rudy Buquet qui montre que sa montre a bel et bien vibré, malgré la tentative désespérée de Matzels au dernier moment de sortir ce ballon. Et c'est qui a marqué, je sais même pas en fait.
Je crois que c'est Flips. Après un coup de flipper, c'est Flips qui a marqué, je crois.
Ouais, c'est possible. En tout cas, très bon centre d'abord de Zeleny. Deuxième poteau, on va revoir l'action. Voilà, il revient sur son pied droit, il centre au deuxième poteau. L'appel de Flips, justement, qui la remet vers l'axe. Et ensuite,
c'est Flips qui la remet.
C'est Balogun, hein, je crois, qui traîne par là.
Ouais, je crois bien, ouais.
Il a le ballon qui est un petit peu derrière lui. Il réussit à la contrôler malgré le retour de Maxime Lemarchand pour frapper en pivot. Et Matzels se jette et il se relève très très vite sur la première situation. Mais effectivement, ce ballon a entièrement franchi la ligne et Rudy Buquet dit que c'est quand même vérifié. Alors c'est étonnant parce que soit la montre elle a vibré, soit elle a pas vibré.
Ouais. Non, c'est parce que je pense qu'il va en regarder sur position d'hors-jeu de Ito.
Ah non, il y a pas d'hors-jeu.
C'est sûr. Ito touche la balle de la tête.
Est-ce qu'il touche, il touche pas?
Non, il joue pas. Non, je vois pas. Non, parce que après c'est Flips qui l'a remis.
Il joue la balle quand même. Il est hors-jeu, il joue la balle. Hein.
Ouais, mais il la touche pas, alors c'est toujours pareil. L'enjeu de position n'existe plus.
L'interprétation des arbitres aujourd'hui, c'est différent.
Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, on sait pas dans quelle mesure. Après, ils sont deux au deuxième poteau. Ils gênent personne, Ito, dans la situation, quoi. Hein, donc,
vu que ça va durer un peu, on va vivre le dernier tour du Grand Prix d'Autriche. C'est ce que je vous propose, messieurs. Paul Lafitte.
Oui, avec la chute à l'instant de Jorge Martin qui avait attaqué Jack Miller pour la 3e position. Pecco Bagnaia qui est en tête avec 8 dixièmes d'avance sur Fabio Quartararo qui a désormais un boulevard d'avance sur Jack Miller. 1:03. Le Français va terminer sur le podium. Jack Miller est en 3e position. Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, est en 4e position. Et le top 5 pour Johann Zarco qui est donc en 5e position devant Aleix Espargaro. C'est un scénario quasi idéal pour Fabio Quartararo qui va reléguer Aleix Espargaro au classement à 33 unités et qui verra également Johann Zarco revenir dans la course avec un classement général en 4e position. Mais quelle démonstration du pilote Yamaha qui est en train de revenir là sur Pecco Bagnaia. Il reste moins d'un demi-tour tours à couvrir et il n'a plus que 6 dixièmes d'avance. Le pilote Ducati qui va gérer, mais alors il s'en faudra certainement d'un demi-tour pour voir Fabio Quartararo revenir vraiment dans la boîte de vitesse de Pecco Bagnaia, qui va s'imposer. Une dernière accélération pour le pilote Ducati qui va s'imposer donc à l'issue de ce Grand Prix de Spielberg. Victoire de Pecco Bagnaia devant Fabio Quartararo, la troisième position pour Jack Miller. On va scruter l'arrivée du quatrième, Luca Marini, devant Johann Zarco, et la sixième position pour le dauphin de Fabio Quartararo au classement Aleix Espargaró. Magnifique victoire encore une fois de Pecco Bagnaia, la cinquième de sa saison, la troisième consécutive, et au classement donc Fabio Quartararo compte 200 points au compteur, 168 points pour Aleix Espargaró, donc 32 points de retard pour le pilote espagnol. En troisième position, Pecco Bagnaia qui grignote son retard, qui a 156 unités au compteur. Et enfin, en quatrième position de ce classement, on retrouve Johann Zarco qui a lui aussi limité la classe pour se classer en cinquième position. Très très belle course donc, dominée par Pecco Bagnaia. La deuxième place pour Fabio Quartararo qui consolide son avance au championnat du monde. Pour vous dire messieurs, il comptait avant ce Grand Prix 22 points d'avance sur Aleix Espargaró. Il en compte aujourd'hui 33 sur ce même pilote espagnol. Donc c'est un contrat plus que rempli pour El Diablo de chez Yamaha, et la cinquième position pour Johann Zarco.
Merci beaucoup Paul de nous avoir fait vivre ce Grand Prix d'Autriche et donc cette deuxième place de Fabio Quartararo. But validé donc pour Reims face à Strasbourg.
But finalement validé après des discussions très longues. Effectivement, il s'agissait sans doute de savoir si Junya Ito, qui était légèrement hors jeu au départ de l'action, a fait action de jeu ou pas sur ce coup-là, même s'ils étaient que deux. Est-ce qu'il a pu gêner entre guillemets Mats Hels par exemple dans sa sortie? Ouais. Et finalement on a estimé du côté des arbitres que non, qu'il n'avait pas fait action de jeu et que ce but devait être validé, puisqu'il était clair que le ballon avait franchi intégralement la ligne malgré la tentative de sauvetage de Mats Hels. Donc on est à la 85e minute maintenant après ces quelques palabres, et le score est de 1 but partout. Quelque part c'est un petit peu mérité quand même, hein, oui. pour le stade de Reims. S'ils avaient eu un deuxième but refusé pour 1,5 cm de hors-jeu au départ, ça aurait été quand même très dur, parce qu'on rappelle qu'ils ont eu une situation alors pas similaire, mais un but refusé pour un hors-jeu vraiment de très très peu en première mi-temps. Et sur ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est vrai que les Rémois méritent en tout cas cette égalisation. Mais il reste 5 minutes à jouer et les Strasbourgeois repartent de l'avant maintenant avec le ballon là-bas côté droit pour Jean-Rickner Bellegarde. Thomas Delaine est sorti avec des crampes au mollet, donc je vous disais que ça devenait dur physiquement pour les deux équipes. C'est le cas. Et Jens Kajust qui est entré lui aussi, joueur à 10 millions comme Junya Ito, pour amener un petit peu de fraîcheur côté Rémois, ainsi que Alexis Flips. Et du côté strasbourgeois, Habib Diarra également est entré au milieu du terrain. Voilà, 5 minutes encore à jouer et désormais un but partout entre Strasbourg et Reims. Et
Sébastien Manu ne ratera rien bien sûr de la fin de ce Strasbourg-Reims, mais d'abord, puisque à 15h on va suivre en direct 4 rencontres avec Arnaud Valadon, on a parlé d'Angers-Brest, de Montpellier-Auxerre, on va accueillir Damien Tardieu. Salut Damien.
Salut François, salut Manu, salut tout le monde.
Et Nicolas Paul Orsi, salut Nico.
Tous.
Avec d'abord Damien pour Clermont-Nice. Tu vas commenter ce match. Pourquoi faut-il absolument suivre ce Clermont-Nice?
Parce que si on suit au stade, c'est un match où il y aura du spectacle. Je vais un peu copier l'ami Julien Landry à Montpellier. Mais Clermont, c'est 2 matchs joués, c'est 11 buts en tout. Il y a eu le 5-0 encaissé face au PSG. Il y a eu la victoire renversante face à Reims, 4-2. Bref, bon, c'est pas l'assurance tout risque en matière défensive, mais ça a aussi des qualités offensives. Et puis il y a aussi sur le papier, en tout cas, des qualités offensives à Nice, dont on guettera évidemment la réaction après la défaite en barrage de Coupe d'Europe cette semaine face au Maccabi Tel Aviv. Ça fait deux bonnes raisons de rester avec nous évidemment pour suivre ici au pied des volcans ce match entre le Clermont Foot et l'OGC Nice.
Convaincu Manu?
Non, pas des masses. Non. Deux équipes qui se cherchent quand même encore pour ce championnat, et compliqué à déchiffrer qui va gagner.
Et c'est pour ça que ça va être intéressant quand même. Nico Paul Orsi, merci Damien. Nico, tu seras au commentaire toi de Toulouse-Lorient.
Ouais.
Alors pourquoi faut suivre absolument Toulouse-Lorient, Nico?
Tu vas voir François, moi je vais convaincre Manu. Bah, tout simplement parce que ces deux équipes invaincues, le TFC et Lorient, 4 points pour le TFC qui reste sur un gros succès, 3-0 à 3, c'est spectaculaire. On veut voir le jeu toulousain, ils ont vraiment réussi à s'adapter en Ligue 1 face à une équipe de Lorient qui a été privée de match contre Lyon la semaine
semaine passée, mais qui s'était imposé lors de la première journée contre Rennes. C'est deux équipes qu'on attendait dans le bas du classement et qui jouent très bien le tout dans une sublime ambiance à Toulouse. On le répète, mais une nouvelle fois, plus de 20 000 supporters attendus. Ça chante depuis 2 heures désormais dans les rues de Toulouse et au stadium. Donc il y a tout qui est réuni pour faire un match sympa entre deux équipes qui ont réussi leur début de saison.
Je suis sûr que Manu, il est hypé.
Ah, c'est sûr.
C'est vrai que je suis convaincu parce que Toulouse me plaît énormément. Déjà contre Nice, ils méritaient de gagner. Ils avaient fait pratiquer un super jeu. Et là, à 3, bon, ils ont fait une démonstration. Pas de problème. Et je trouve que Lorient a des qualités aussi qui peuvent inquiéter Toulouse. Mais bon, bon match à regarder.
Ça peut faire un bon match, effectivement. Ah ouais. Bravo, Nico.
Salut les gars, merci.
Salut Nico.
Allez, on se retrouve à 15h et on va parier tout de suite sur ce match.
Winamax, les meilleurs cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guillet de la rédaction des Paris RMC. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut Yoann.
Alors les cotes de ce Toulouse-Lorient.
1,85 la victoire du TFC, 3,70 le nul, 4,30 la victoire des Lorientais. Je pense que Toulouse fera le travail à domicile en s'imposant et j'ajouterai à ça le but de Dalinga pour faire grimper la cote à 3,10.
C'est pas mal. Manu, convaincu aussi par Yoann?
Ouais, victoire de Toulouse et but de Dalinga, moi je
pense. Côté à 3,10.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup Yoann. D'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Mais avant de retrouver Arnaud Valadon et donc ces matchs de 15h en Ligue 1, la fin de Strasbourg-Reims. Vous n'allez rien rater avec Sébastien Ruffet au stade de la Méno. Il peut encore tout se passer, Sébastien, dans cette rencontre.
Ah oui, il peut se passer encore choses. Hein. Il reste un partout. Il reste 1 minute 15 dans le temps réglementaire, mais il y aura du temps additionnel puisqu'il y a eu l'appel à la VAR dans cette deuxième mi-temps. Des petits bobos, des crampes. Donc on va jouer encore quelques minutes largement. Voilà, la dernière minutes dans le temps réglementaire et ça va d'un but à l'autre parce que tout simplement les deux équipes sont un peu cuites. Alors on a un petit peu de déchets techniques dans les transmissions, ça rend vite la balle à l'adversaire, ça essaie d'aller d'un but à l'autre. Il n'y a aucune des deux équipes qui se satisfait ou se contente de ce match nul, forcément les Strasbourgeois parce qu'ils ont encaissé une égalisation là il y a quelques minutes à la 83e par Balogun alors qu'ils tenaient leurs trois premiers points, leur première victoire de la saison. Et les Rémois, parce qu'ils sentent qu'il y a quand même un truc à faire, ils sont bien en jambes dans cette fin de match. Ils ont fait les changements, Oscar Garcia a fait des changements intéressant avec des joueurs qui ont apporté quelque chose tout de suite dès leur entrée. Donc on sent côté Rémois une volonté d'aller chercher un peu plus que ce point du match nul qui pourtant aurait fait leur affaire il y a encore une dizaine de minutes. Mais voilà, ils sentent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Le public essaie de se réveiller un petit peu et de pousser un petit peu ses joueurs. Donc c'est quand même un petit peu décousu. Le temps additionnel, ce sera 5 minutes. Voilà, 5 minutes encore à jouer ici à la Méno. Il peut effectivement encore se passer pas mal de choses. Et un changement, Kevin Gamero est sorti. Et c'est Lebo Motiba qui est entré en jeu, le Sud-Africain, pour amener un petit peu de fraîcheur justement dans cette fin de match. Il y a eu pas mal de changements.
J'en profite, Sébastien, on va faire un petit détour par le vélo, la course en ligne au championnat d'Europe de Munich, parce que c'est terminé, Valentin Jamarin.
Victoire de la grande favorite, la néerlandaise Lorena Wiebes, au sprint devant la championne du monde Elisa Balsamo. La troisième est italienne, comme Balsamo d'ailleurs, Rachele Barbieri. Première française, Gladys Werrels, elle se classe 9e.
Merci beaucoup Valentin. Allez, on retourne à la Méno. Strasbourg-Reims, qui va faire la différence? Manu, un pronostic? Ça va rester nul. Comme ça.
Le nul, oui, ça partie. Va rester comme ça. Ça, oui,
pas,
parce que
la cote n'est pas très haute, hein, mais bon.
Non, mais bon, à ce moment du match, c'est sûr que ça ne va pas être très haute. Hein.
Oui, après cela dit, le but strasbourgeois est venu dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, je vous le rappelle. Ouais, hein, donc pourquoi pas. Allez, un coup franc, un long coup franc, là, aux 40 mètres, là, Zeleni, qui va allonger, qui va mettre dans la boîte. Il y a beaucoup de Rémois qui sont montés, justement, la tête de Djikou pour repousser une première fois. Est-ce que, ouais, bien joué, là, du jeune Habib Diarra, qui va peut-être pouvoir partir. Est-ce qu'il va réussir à accélérer? Ou le retour de Mounetzi, là, vraiment, en dernière instance, pour tacler ce ballon. Il a fait vraiment un gros effort là pour se replacer, le milieu de terrain Rémois qui fait un gros match aussi, parce que là Habib Diarra, le jeune Habib Diarra, il était parti, il est frais, et s'il avait pu pousser ce ballon là, il y avait un boulevard derrière, mais voilà, gros effort de Mounetzi qui a un petit peu de mal là du coup à s'en remettre, mais il le fallait. Allez, le ballon dans les pieds des Strasbourgeois avec Djikou qui va essayer d'allonger là-bas dans la surface de réparation, la tête de Gravillon qui va être percutée. Ouais, il y aura une faute, ouais, c'est logique. Ça râle, mais oui, il est percuté en l'air par Pierre Gabriel qui joue pas vraiment le ballon sur ce coup là, et Gravillon qui reste un petit peu au sol, un petit peu touché, mais ça va, il va se relever, le massif défenseur du Stade de Reims. Et puis on pense à cette stat, hein, depuis le retour en Ligue 1, en 8 confrontations, Strasbourg n'a battu que 2 fois le Stade de Reims, pour 3 nuls et 3 défaites face aux Champenois. Donc voilà, ils sont encore en train de confirmer cette statistique, hein, les Rémois, d'une grande difficulté des Strasbourgeois à venir les perturber, les bousculer. Allez, le coup franc, donc on est avec Patrick Pence qui va allonger. Maintenant, je pense que ça va être pas mal ça, hein, des deux côtés. Maintenant, des longs ballons devant parce que les milieux, ils en ont un peu plein les baskets maintenant. Et on va essayer quand même de construire. C'est pas mal joué là, le petit triangle avec K juste là qui va se présenter. On est à 25 mètres. Il va tenter sa frappe du gauche et ça va être contré. Il y a peut-être un petit peu mieux à faire là de la part du Danois. Et le ballon arrive jusqu'à Matsels qui, devinez quoi, envoie un long ballon devant pour pourquoi pas la tête de Ludovic Ajorque. C'est touché, c'est récupéré par les Bomotis. Bah attention, le 1-2, est-ce qu'il y aura quelque chose? Il y aura une faute. Et ce sera un coup franc à venir pour les Strasbourgeois à l'extrême limite de la surface de réparation. Ah, celui-là.
Un beau coup franc.
Ah ouais, celui-là il est pas mal.
Les dernières minutes de Strasbourg, hein, ça suit bien sûr en direct sur RMC. Un partout pour l'instant.
C'était, c'était je crois, Diarra qui a essayé de jouer le 1-2 et Woodfest qui veut jouer le ballon, hein, mais qui arrive un petit peu en retard et qui percute. Non, c'était Jean-Eudes Aoulou qui percute Aoulou. C'est vraiment, ça s'est joué là quelques centimètres et Woodfest qui prend un carton jaune sur cette action. C'est vrai qu'il s'est pas trop arrêté. Hein. Quand on revoit l'image, c'est très juste et très logique, même s'il râle un petit peu. Mais là, on est vraiment allez, à 40 cm de la ligne de la surface de réparation. À des 18 mètres, on est décalé un petit peu sur le côté droit. Donc, a priori, c'est pour un gaucher. Dimitri Lénard n'est plus là, il est sorti. Donc, il y a encore le pied gauche de Ludovic Ajorque ou la petite patte droite de Sanin Persic. Alors, lequel des deux? Il y a aussi Jean-Luc Nerbelgaard qui est plutôt bon dans l'exercice aussi. On n'a pas trop l'habitude, mais on en a déjà tiré quelques-uns la saison passée. Il les tire à l'entraînement aussi. Mais voilà, il s'écarte, donc ce sera soit pour le gaucher rentrant Ludovic Ajorque, soit pour Sanin Persic avec Ajorque, peut-être
Ajorque, ouais, moi aussi.
Allez, faites un petit
un petit Ajorque.
Ouais, il y aura un changement qui va être fait quand même là.
On casse le rip.
Ouais, un petit changement avec Junya Ito qui sort et c'est El Bilal Touré qui entre pour vraiment les toutes dernières secondes, hein, parce qu'on est déjà à 3 minutes 40 dans le temps additionnel sur les 5 minutes, même si là on prend beaucoup de temps avec ce coup franc, cette faute, les discussions, le mur à distance, pas à distance, le changement. Donc c'est vraiment la toute dernière chance sans doute pour les Strasbourgeois de venir
sur la concentration du tireur.
Ouais. Là, il a que ça à penser, hein. Attention, c'est parti, le coup de sifflet, vous l'avez entendu. Petite feinte de Persic, c'est parti pour Ludovic Ajorque. Oh, l'arrêt de Pence. Ouais, il fallait la chercher celle-là parce qu'elle était cadrée dans le petit filet opposé. Ah, terre forte. Bien joué quand même de la part de Ludovic Ajorque. Et Pence, malgré le mur, qui se détend bien sur son côté droit pour la mettre en corner. Donc ça, c'est un arrêt qui vaut cher. Et le corner à venir avec le public qui pousse, pourquoi pas. Une situation supplémentaire. C'est Sanin Persic qui prend le temps de bien positionner son ballon sur la pelouse de la Méno. Une belle pelouse d'ailleurs cet après-midi, même si on voit quelques petites mottes au fur et à mesure des tacles. Allez, c'est parti, il y a beaucoup de moins. Tous les Rémois sont dans leur surface de réparation, hein. Hors de question pour eux de prendre un but là-dessus. C'est bien tiré, deuxième poteau, Pence, il y va pas. Et finalement ça va filer et ce sera un 6 mètres. Même si les Strasbourgeois râlent et estiment qu'un Rémois l'avait touché. Il n'était pas allé sur ce ballon aérien là, Patrick Pence. Il a laissé sa défense un petit peu là se débrouiller. Et heureusement pour les Rémois qu'il n'y a pas un Strasbourgeois qui arrivait lancé pour reprendre ce ballon, parce qu'ils se seraient retrouvés là en grande difficulté, sachant qu'ils ont déjà pris un but sur corner en première mi-temps. À mon chronomètre, le temps additionnel est écoulé. Est-ce que monsieur Buquet, il regarde sa montre, est-ce qu'il va laisser jouer encore une situation? J'ai pas l'impression, puisqu'il met son sifflet à la bouche. Et voilà, il ne laisse même pas le 6 mètres se jouer. C'est terminé ici au stade de la Méno sur ce score de 1 but partout, qui est finalement, allez, on va dire assez logique, hein, sur l'ensemble de la partie, même si les Rémois ont fait une très très belle première mi-temps, malheureusement puni par Alex Djikou dans le temps additionnel de la première mi-temps sur corner. 1-0 à la mi-temps pour les Strasbourgeois et l'égalisation assez logique quand même des Rémois à la 83e par Balogun.
Merci beaucoup Sébastien Ruffet. Strasbourg, Reims, un partout. Strasbourg 13e, Reims 19e, les deux équipes qui n'ont pas réussi à remporter leur premier match cette saison. Qui t'a fait la meilleure impression, Manu?
Ouais, écoute, à chacun sa mi-temps. J'ai trouvé Reims en première mi-temps était très bon dans le pressing, dans la construction du jeu. Et Strasbourg s'est quand même bien réveillé. Ils ont arrêté de sauter le milieu terrain pour s'organiser de derrière, milieu terrain et attaquant, dans un jeu collectif qui était très 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 intéressant.
Un partout entre Strasbourg et Reims. Merci beaucoup, Manu. À
très bientôt. Au revoir. Merci.
Arnaud Valadon, Sébastien Piocelle, Angers, Brest, Montpellier, Auxerre, Clermont-Nice, Toulouse, Lorient. La Liga continue sur RMC.
RMC Intégral Foot Liga.